What is this, Carter? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Great easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, génie de l'art, de la vie, du déni ou de la déprime. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Quelle bonne idée! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être, comme toujours, en excellente compagnie avec Cathy. Salut Cathy.
Salut Sophie.
J'allais dire Didier. Olivier.
Oui, bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Bonjour Sylvain.
Sylvain?
Salut.
Derrière la vitre aux manettes, salut Sylvain. Mathieu.
Salut.
Et René.
Bonjour.
Et nous allons parler des films La Zone d'intérêt, Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, La vie rêvée de Miss Fran. Et on reparlera aussi des films qui sont toujours à l'affiche en Ardèche, L'innocence. Et on dira un mot aussi de Scrapper qui sera aussi à l'affiche du festival du premier film d'Annonay qui débute ce soir. Eh bien, c'est parti.
Die herrliche Zeit, die wir im gemütlichen gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Oui, c'est un film qui s'écoute, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, à qui l'on doit aussi Under the Skin, avec Christian Friedel, Sandra Hüller et Johan Carthaus, qui a été Grand Prix au Festival de Cannes. Vous êtes tous les trois, René, Cathy, Olivier, à l'avoir vu. Qui veut prendre la parole d'abord? René.
Alors, si vous voulez, on est à Auschwitz. Pas tout à fait dans le tristement célèbre camp d'extermination nazi, mais juste à côté, dans la très confortable propriété occupée par le directeur du camp, Rudolf Hoss, et sa famille, qui est à quelques mètres d'un lieu où s'est perpétré un des plus grands crimes de la Seconde Guerre mondiale, coule des jours confortables et paisibles. Alors pour moi, ce qui fait la réussite de ce film hallucinant, c'est ce hors-champ qui va du début à la fin. On suit la vie quotidienne de cette famille sans voir autre chose de ce camp d'extermination que la fumée qui s'en échappe au détour d'un plan et sans entendre autre chose que quelques cris ou de rares détonations. Et pourtant, la présence de cet endroit de mort s'impose. On ne pense qu'à ça parce qu'on nous le cache en quelque sorte. Et aussi, bien sûr, grâce à la bande son qui, de façon quasi ininterrompue, diffuse une musique qui est une sorte de grondement qui rapidement devient obsédant. Alors, c'était probablement la meilleure façon d'aborder ce drame épouvantable, parce qu'il est indicible. Après l'Holocauste, en 1945, le poète allemand Paul Celan déclarait « Quelle poésie écrire après Auschwitz? Qu'est-il possible d'écrire qui soit encore de la poésie après Auschwitz ?» Adorno, abondant dans le même sens, écrivait « Écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare. Et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes. Il y a quelque chose qui dépasse les mots ou les images, quelque chose qui invite au silence, une forme de silence. Et j'insiste, c'est cette façon de nous faire sentir la présence de ce lieu de mort par le hors-champ qui fait l'intérêt majeur de ce film à mes yeux. Bon, autre réussite formelle du film, la façon très ambivalente dont la maison où habite cette famille a été filmée. Elle apparaît à la fois comme très confortable et comme étouffante, avec ses plans récurrents sur ce long couloir étroit. Et puis, bien sûr, il y a la lumière. Dès qu'on est à l'intérieur, c'est une espèce de gris. Et surtout, les personnages qui sont tenus à distance par la caméra. On ne voit pratiquement jamais le visage de l'acteur qui incarne Rudolf Faust. On ne le voit jamais de face, en tout cas. À telle enseigne que... Au début du film, après pas au début du film, après un moment, il m'a semblé reconnaître l'actrice féminine comme étant l'actrice qui avait également joué dans Autonomie d'une chute.
Anatomie d'une chute. Sandra Hüller.
Et effectivement, c'est bien Sandra Hüller. Mais on la reconnaît à peine. Il s'agissait pour moi, c'est la lecture que j'en fais, il s'agissait sans doute pour Glaser, le metteur en scène, de ne pas banaliser ses personnages, d'éviter que les spectateurs puissent tant soit peu s'identifier avec ces monstres, car il s'agit bien de monstres. Comme l'indiquent deux ou trois phrases prononcées par le personnage féminin, qui montre ça, quoi. Voilà, c'est un film qu'il faut manquer à aucun prix. C'est un film qui fera date, à mon avis.
Ouais. Cathy, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur...
Moi, je me dirais plein de choses, mais je ne sais pas, peut-être qu'Olivier veut enchaîner sur ce qu'a dit René. Moi, si je peux dire, c'est que la double entrée qu'il a, ce film, à la fois sur le côté historique, hein, qui revient sur cette tragédie et ce qui a pu se passer sur les camps. Et la façon dont le réalisateur filme tout ça, et ce choix, ce parti pris, hein, de nous faire rentrer sur le côté, le off, comment une famille peut vivre comme ça, aveuglément, en fait, volontairement ou pas, on va voir le jardin, ça pousse, c'est joli, c'est glaçant, quoi, vraiment. Et quand on sait que nous, derrière... Il y a ce qui se passe au niveau de l'extermination de population, de la population. On voit une fumée sortir d'une cheminée, on entend. Donc il y a des flammes, c'est très sonore, il y a une musique à la fois et ces bruits en fond qui sont très puissants. Donc c'est vraiment un film glaçant dans ce sens-là. Donc il y a cette double entrée historique. Je sais que c'est aussi une adaptation, mais très très libre. Hein. Il y a un livre de Martine Amis qui s'appelle aussi La zone d'intérêt, que j'ai pas encore lu, mais que j'ai envie de lire pour voir un petit peu quelle similitude ou disparité il peut y avoir avec. Apparemment, il y a quand même il a pris beaucoup de liberté. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est cette maîtrise. Donc ça fait penser beaucoup à Kubrick, en tout cas dans la réalisation, dans ce côté froid, dans ces symétries qu'il peut y avoir sur les pièces, les plans qu'il y a. C'est très kubrickien. Je trouve que le personnage féminin, Sandra Hüller, est à la fois... peut-être pire la façon dont elle est représentée que le commandant et ce qu'elle dit, que le commandant. Donc ça, c'est très fort aussi. C'est un film... Ah oui, et je voulais aussi parler d'un autre film. Je ne sais pas si vous avez vu Le fils de Saul, le fils de Naslo Nemes. Et puis surtout que c'est qu'on ne voit pas le personnage, donc tu parlais du commandant tout à l'heure, qu'on ne voit pas vraiment de face, jamais un peu, mais pas trop.
On a du mal à les identifier, oui. C'est pas un accident, évidemment.
Oui, et c'est vrai que ce film aussi est intéressant dans sa façon dont il est filmé, puisque là on est vraiment, on voit jamais, on est vraiment à l'épaule. Le spectateur est toujours le personnage principal. Mais là, par contre, on voit ce qui se passe. C'est à la différence de celui-là où on ne voit pas ce qui se passe. On est sur un autre plan. Mais c'est aussi un film glaçant et hyper important à voir aussi si on ne l'a pas vu.
Mmh. Olivier. Oui, bien sûr, d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et en soulignant une fois de plus la qualité de la bande-son, c'est un film de radio. Hein. Mmh. C'est terrible parce que outre cette musique parfaite, il y a les sons, ce qu'on appelle véritablement les sons, des coups de feu, des armes à poing, on suppose, ou des fusils, les aboiements des chiens. Si, si, oui, ils aboiement des chiens.
Ils n'existent pas trop quand même.
Non, mais on les entend de temps à autre. On les entend. Oui. C'est comme une petite piqûre de rappel. À côté, c'est pas un jardin public, quoi. Et à côté, c'est plus d'un million de personnes qui sont passées là, dont 900 000 qui ont été éliminées le jour de leur arrivée. C'est et la conférence de Wannsee, c'est 42 et le camp a été libéré fin 44, début 45. Donc on s'imagine, ça fait 1500 personnes par jour. Hein. Ouais. Donc personnellement, mon premier contact avec la destruction des Juifs d'Europe filmée, c'est Shoah de Lanzmann, naturellement, que j'avais vu un soir tard à la maison chez mes parents. Hein. Et ça m'avait scotché, quoi. Et depuis, j'ai pas arrêté de réfléchir à ça, vu mon métier. Bon, je suis prof de philo, donc il a fallu quand même souvent revenir sur cette question, parce qu'on touche à l'impensable, effectivement. Ce que dit Paul Celan, ce que dit Anselm Kiefer, ce que dit Wim Wenders, tout ça, c'est, ou Heinrich Böll, ou, enfin, toute la culture allemande qui suit ça, dit ça. Comment on peut faire après? Voilà. Donc. Moi, c'est un sujet qui m'a bloqué pendant 40 ans, plus de 40 ans. Et là, Glaser, il arrive à renouveler mon regard. C'est quand même ça qui est étonnant. C'est-à-dire que je sors du film, je suis à peu près aussi scotché que quand j'avais vu une assez grande partie de Shoah de Lanzmann. C'est quand même une performance incroyable, quoi. Alors, en deux mots, parce qu'on en a beaucoup parlé hier en faisant de la philosophie à l'atelier philo, quand on pense à la libération de l'Europe en 44-45, moi ça me touche particulièrement, je viens de Metz, la bataille de Metz c'était automne-hiver 44, un affrontement entre le Reich et les Américains principalement, et à Metz il y avait même des soldats allemands qui venaient du front russe où ça avait trop frité, Stalingrad était tombé, et donc vous imaginez, donc l'armée rouge et les alliés qui au prix de combats mais dantesques, arrive à libérer l'Allemagne, la Pologne, arrive à Auschwitz et voit plus dantesque que le dantesque. Vous sortez de là, vous sortez, René parlait de Celan, Paul Celan est quelqu'un, comment écrire un poème après Auschwitz? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a écrit, lui, en allemand. Il a mis un point d'honneur à écrire en allemand, on le voit dans le film de Wenders sur Anselm Kiefer. Je voulais dire que la libération de l'Europe par les armées alliées et l'armée rouge a été une véritable catastrophe pour l'Europe. Berlin détruite à 94%. Normalement, le même exercice, le même travail devait s'effectuer au plan de l'intelligence pour nous libérer d'Auschwitz dans nos têtes. Ce travail n'a pas été fait. C'est-à-dire personne, aucun intellectuel ne nous a sérieusement expliqué ce qui s'est passé là, sauf à faire la même chose que les Américains, tout raser et reconstruire n'importe quoi, le relativisme généralisé, sur les décombres de la culture européenne. Donc, moi, c'est ça qui me touche profondément. Nous n'avons pas encore pensé à Auschwitz. Toujours pas. Et sauf, peut-être, et ça m'intéresse, puis j'arrêterai après, parce que bon, sinon, moi, j'en finirai jamais, sauf peut-être Albert Camus, qui est mort trop tôt, et Simone Veil, la philosophe, naturellement, qui a disparu et enterré à Ashford, en Angleterre, a disparu en 43. Ce sont les deux seuls intellectuels qui, à mon sens, nous ont donné des clés pour comprendre ce qui s'était passé. Et Camus a été rangé au rayon des divertissements. Et Simone Veil, personne n'en parle. Voilà.
Sauf Olivier. Merci Olivier, mais c'est vrai que on pourra en parler. Peut-être que d'autres cinéphiles, d'autres chroniqueurs l'auront vu. On reparlera peut-être de ce film lors des prochains cinémascopes. En tout cas, il est à l'affiche du navire à Aubenas, et uniquement du navire à Aubenas, mais pendant un petit temps. Donc vraiment, allez-y, la zone d'intérêt de Jonathan Glaser. Alors, comment faire la transition, Mathieu? Tu souhaitais nous parler de le film contraire, l'innocence.
Exactement.
De Kore-eda.
L'innocence, un film qui va parler de la famille, l'innocence de Kore-eda. Prix du scénario Festival de Cannes, c'est ce qui m'a poussé. Bon, c'est un film de Kore-eda, donc bien sûr que j'étais très curieux, mais alors en plus de ça, j'avais hâte de voir ce film. Alors pour recontextualiser, c'est l'histoire du jeune Minato, qui a un comportement étrange depuis un certain temps, étrange pour ses parents dans le film, dans le scénario, étrange pour le spectateur. Et sa mère, qui l'élève seule depuis la mort de son mari, décide de rencontrer l'équipe éducative et d'essayer de trouver d'où vient le problème. Et là, il s'avère que le professeur, j'ai un doute sur le nom, mais Hiro, je pense, le professeur est désigné comme responsable des troubles du petit garçon. Et l'histoire va se dérouler en trois actes, trois parties. Du point, alors, il y aura la partie à travers les yeux de la mère. C'est le premier acte. Le regard du professeur et ensuite le regard des enfants. À première vue, ce film, dès qu'il commence, dès qu'on comprend en tout cas que le deuxième acte arrive, on comprend la construction du film. On a un très beau point de repère temporel qui est l'incendie de ce bâtiment. Tout est extrêmement bien calculé pour ne pas perdre le spectateur et donc tout peut sembler assez classique et déjà vu malgré que le scénario emmène de choses intéressantes. Et ensuite, il y a la caméra et le jeu d'acteur qui vient. Et en fait, il y a une telle justesse dans la façon de filmer les différentes histoires à travers le regard des spectateurs, des personnages et du coup du réalisateur. Et il y a une façon de filmer tout ce qui se passe qui est assez incroyable, touchant, sensible, juste. Et on se retrouve avec un film qui aborde énormément de sujets. Alors le prix du scénario, je le comprends très bien, mais ce qui est très fort dans ce film, c'est qu'il ne faut pas aller le voir que pour ça. On a un casting qui est incroyable. Les enfants sont... C'est difficile à expliquer, hein. Vraiment, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé le film, donc allez le voir parce qu'il est encore en salle. C'est un casting incroyable, que ce soit la mère, le professeur qui au début, le premier acte influence le spectateur. Et quand vient la suite, déjà, on parler d'histoire à travers différents points de vue, je pense que ça fait du bien à tous. Parce que même si on croit savoir la vérité, il faut un peu prendre du recul et c'est valable dans la vie. Mais aussi quand le film amène ça, ça permet de ressortir de la salle avec... des a priori qui sont parfois... Voilà, ça nous enseigne un peu peut-être le lâcher prise et l'écoute des autres. Voilà. Et quand on regarde ce film, on peut s'attacher qu'au personnage. Il y a presque un côté assez documentaire. Il y a une façon de filmer le professeur. Au début, on le voit comme quelqu'un d'horrible, quoi. On le voit sourire devant la mère qui voit son garçon souffrir. On le voit... Et ensuite, on remarque que c'est quelqu'un d'extrêmement touchant. Et l'enfant, voilà... Vous avez compris, je ne parle pas d'histoire, parce qu'il faut le découvrir. Et que dire d'autre ? Ça parle aussi, c'est un point que j'ai trouvé très beau, c'est la société japonaise, la façon du respect, de la retenue, le fait de s'excuser à outrance pour essayer de ne pas froisser les structures, les gens. C'est très bien montré. Encore une fois, en tant que spectateur, on croit voir quelque chose, une espèce de critique de cette société japonaise, de notre point de vue occidental, et encore une fois, on voit que c'est pas toujours aussi facile et qu'il y a des choses qui ont beaucoup de subtilité et qu'il faut prendre le temps de voir ça.
Visiblement, on est très loin de stupeur et tremblement.
Exactement, mais il y en a quand même, c'est un crescendo qui est très bien rythmé jusqu'au point culminant, donc voilà.
Tu fais référence, René, à Stupeur et Tremblement.
Un film qui montre la société japonaise dans toute sa dureté.
Issu
parce que
ce n'est
pas que les enfants de cœur non plus, hein, les Japonais.
Mmh. Issu du livre d'Amélie Nothomb, ouais. Une adaptation.
Superbe, d'ailleurs.
Merci beaucoup, Mathieu. Effectivement, ça donne très envie d'aller le voir. Je vous propose peut-être un combo. Alors, je ne sais pas dans quel sens, hein, la zone d'intérêt et l'innocence. Je ne sais pas dans quel... c'est vraiment deux manières d'explorer... L'innocence donc de Kore-eda qui est effectivement toujours à l'affiche au navire à Aubenas.
Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci.
Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air.
N'oubliez pas d'ériger ma statue.
Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain, elle est porteuse de vie. Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France.
Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but? Quel est le véritable sens de la vie?
Votre comportement est des plus étranges.
Je suis complètement un fou.
Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées.
De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis.
Leonardo, ce que
pourquoi
ça...
Pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses? Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels.
Un petit cours en accéléré de Léonard de Vinci, sur Léonard de Vinci, avec Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, de Jim Capobianco, qui était co-scénariste de Ratatouille, et Pierre-Luc Grangeon. Vous avez entendu les voix de André Dussolier, notamment.
Marion Cotillard
aussi. Olivier, donc, dans ton parcours initiatique du cinéma jeune public, tu es allé voir Léo.
Regarde tout. The Inventor, en américain, en Irish speaking peut-être, parce que c'est franco-irlandais cette affaire. C'est surtout américano-français, donc tu as cité Jim Capobianco.
Ouais, fabriqué dans les studios de stop motion de fabriqué dans les studios, de stop motion de Foliascope, ici en Nord-Ardèche.
À Saint-Péry, tout à fait. Et par Pierre-Luc Grangeon, qui auparavant était à Folimage à Valence, et encore avant dans l'école d'art appliqué de Lyon. Voilà, donc un petit peu le lièvre et la carpe et le lapin, puisque Jim Capobianco, comme tu l'as dit, est co-scénariste. Il était déjà co-scénariste du Roi Lion en 1994. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà, donc c'est... Alors, le film est une petite merveille du point de vue de l'animation, parce qu'il y a un subtil mélange de la 2D classique, le dessin animé classique, dans une esthétique qui peut faire penser à beaucoup de choses, mais pour donner une idée, peut-être un petit peu Ernest et Célestine, en fait, quelque chose un peu comme ça, un peu pastel, un peu, mais très, très, très lumineux, très beau, très, très beau. Il y a cette esthétique-là, et à côté de ça, il y a l'esthétique des planches de Léonard, comme disent les bobos parisiens, Léonard. C'est Léonard de Vinci. C'est en sciant que Léonard de Vinci. Et alors, vous avez des planches anatomiques, vous avez, etc., de Léonard de Vinci. Et puis, vous avez enfin le stop motion. Grangeon était modeleur à Folimage, donc il s'est bien. Et alors là, ça, c'est magnifique. C'est Foliascope qui avait fait Interdit aux chiens et aux Italiens.
Exactement. Ouais.
Voilà, pour vous donner une petite idée de l'esthétique, c'est splendide.
Et alors, tu nous parles de l'esthétique, mais comment c'est amené, le fond, comment ça t'a...
Alors, le fond est très mauvais, par contre. Voilà, c'est dommage. tu parlais toi-même d'un petit cours en accéléré. Donc, c'est un cours d'histoire de l'art, d'histoire des sciences, d'histoire politique, d'histoire... On a tout ça en 1h45, je crois, ou 1h37, je ne sais plus. C'est assez... Voilà. Enfin, il y a de quoi faire. Mais alors, c'est un cours... on a l'impression que c'est un cours qui est fait par le père de Marcel Pagnol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cours Troisième République. C'est l'histoire écrite par Michelet, par Renan, par Edgar Quinet, vous voyez, anticlérical.
Edgar Quinet.
On ne parle pas assez souvent d'Edgar Quinet. Je suis là pour ça, parler d'Edgar Quinet, enfin. Et oui, effectivement, donc c'est une histoire anticléricale. Donc on a tous les clichés. Le pape est bête et méchant. Le roi n'est pas méchant, mais il est bête. Hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Heureusement.
Léo est gentil et intelligent.
Et Léo est gentil, intelligent, humaniste. Enfin, il a tout pour plaire, sauf son âge, malheureusement. Mais ça n'empêche pas une complicité merveilleuse avec Marguerite de Navarre, qu'on découvre comme personne ne l'a jamais vue, Marguerite Valois-Angoulême, sœur du roi. François Ier. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on regarde la bio de Marguerite de Navarre, il n'est pas jamais question de Léonard de Vinci. Et quand on regarde la bio de Léonard de Vinci, il n'est jamais question de Marguerite de Navarre. Mais là, ils sont tous les deux ensemble tout le temps. Alors, c'est très curieux. Et donc, il faut savoir qu'en fait,
C'est le cinéma, c'est merveilleux.
C'est merveilleux. Mais alors, donner des leçons aux enfants sur des bases aussi instable, ça me paraît pas gentil. Surtout que Léonard de Vinci, il n'a pas du tout été découvert par François Ier, par Louis XII à Milan. Donc ça n'a rien à voir. En fait, Léonard de Vinci a passé 3 ans en compagnie très très lointaine de François Ier. Voilà, donc 3 ans, hein. Il est arrivé en 1516, il est mort en 1516. Il est arrivé pour mourir, paix à son âme. Et c'est bien dommage que... avec un matériau, un médium aussi riche, on n'en profite pas pour faire de l'histoire tout aussi simple, mais pas simplificatrice. C'est un peu dommage. Voilà.
Est-ce qu'au moins il donne une image positive de la grande Marguerite de Navarre, qui était quelqu'un de bien ?
On raconte.
Oui, trop positive, infantile comme ça.
Le temps file. Donc bon, on aura vu Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, fabuleuse. Pas si fabuleuse, ouais, c'est ça.
Si fabuleuse justement.
Au navire à Aubenas, bientôt à Rosières. Allez, on termine avec le dernier film à l'affiche.
I'd love to introduce you all to the newest member. This is Robert.
Hello. Hey.
Hi.
Friend, right?
Sorry.
I just wanted to give you this.
Cathy, tu nous avais parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, de Priscilla, qui évoquait l'ennui de cette femme. Et aujourd'hui, encore peut-être un autre film qui finalement évoque aussi la solitude et peut-être l'ennui. La vie rêvée de Miss Fran.
Oui, alors un jour, peut-être qu'on fera une émission sur les titres des films, parce que les distributeurs aiment assez les modifier. Donc le film dont a parlé Mathieu s'appelait Monster, et ah oui, il est devenu L'innocence en français. Et La vie rêvée de Miss Fran, le film dont je vais vous parler, s'appelait avant Sometimes I Think About Dying.
Sometimes
I Think About Dying. Et ça change tout.
Il m'arrive de penser à Daryl.
Bon, alors, en fait, ça change tout quand on a cette approche d'un titre où la personne dit quelquefois je pense à la mort ou à mourir. Et c'est vraiment tout l'enjeu dans le film.
Dying. Je crois que c'est Darrow.
Non, ah oui, Dying. C'est mon anglais, ma prononciation.
Il m'arrive de passer à la mort. D'accord.
Voilà. Something I Think About Dying. Sometimes. Voilà. Donc, c'est le 2e long métrage de Rachel Lambert. C'est un film qui raconte l'histoire de Fran, qui est une employée de bureau dans une petite entreprise portuaire de l'Oregon. Elle est d'une timidité maladive, elle mène une existence millimétrée, dénuée de toute fantaisie, et un jour débarque dans sa vie, notamment dans son entreprise, un garçon qui s'appelle Robert, et qui est une nouvelle recrue tout à fait fantasque, sympathique, et qui visiblement s'intéresse à elle. C'est là que ça bascule. Donc c'est un film, pour faire vite, où il y a... Alors c'est les films Sundance, c'est-à-dire qu'au moins on sait que le cinéma américain n'est pas mort, parce que tout ce qui est cinéma indépendant américain, ça a quand même une autre valeur que ce que Hollywood peut nous montrer maintenant. Donc ça fait vraiment partie de ces films Sundance, comme on dit. C'est pareil pour le film dont on parlera après, Scrapper. Mais il y a de l'humour. Il y a une esthétique incroyable. Le film est absolument magnifique. Et il y a une musique sublime. Donc c'est vraiment un film qu'il faut... Qui se regarde comme ça, qui pourrait être dramatique, parce qu'en fait, elle, c'est un personnage qui a du mal à créer des liens, qui a envie de créer du lien avec les autres, mais qui, pour elle, c'est mystérieux et inaccessible, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas vraiment comment faire. Et donc, entre les scènes, il y a un moment, boum, où revient ces étranges rêveries dans lesquelles elle plonge, où elle s'abandonne comme ça, avec des plans comme des tableaux, mais absolument superbes, où elle imagine effectivement comment, éventuellement, elle pourrait mourir là, sur le moment.
Sur la plage.
Et donc, c'est hyper, hyper novateur, je trouve.
C'est drôle, hein.
Mais oui, bien sûr, c'est plein d'humour. Ouais. C'est plein d'humour. Donc, s'il y a 3 choses à retenir, c'est ça, c'est l'humour, l'esthétique et une musique sublime. Donc, il faut...
aller voir,
voir ce film, si on peut le voir près de chez soi.
Et bien sûr, tu ne nous diras pas si à la fin elle épouse Robert.
La vie rêvée, mais surtout pas La vie rêvée de Miss Fran, qui est en ce moment sur les écrans d'Uteil et de Ruyons.
Et ce, je voulais, c'est l'actrice aussi qui s'appelle Daisy Ridley, qui est une actrice anglaise, on y revient, et Condor qui distribue le film, distribue énormément de films anglais que j'adore. Mais voilà, on en a parlé comme Entre les lignes, entre autres. Mais c'est l'actrice qui avait joué Rey dans le Star Wars, Le Réveil de la Force, et qui est géniale.
Allez donc voir La vie rêvée de Miss Fran, Auteuil, à Ruyons. Un autre film dont on reparle, mais juste un mot, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Scrapper de Charlotte Regan, dont on avait déjà parlé et qu'on avait soutenu, qui est à voir à Aubenas, mais pas que, puisque vous, Maison d'Image, enfin Rencontre des cinémas d'Europe, vous proposez au festival du premier film d'Annonay, donc qui commence aujourd'hui, votre film.
C'est-à-dire que on a l'habitude avec Gaël Lapenti, qui est le programmateur du festival du premier film d'Annonay, de se faire un échange de cartes blanches chaque année. Donc cette année, il est venu présenter Fifi, et moi, je vais aller mardi soir présenter Scrapper. Le premier film, de, comme tu disais, de Charlotte Regan, qui est donc un film Sundance, cinéma indépendant américain, qui a eu le grand prix d'ailleurs pour la compétition internationale à Sundance, et qui est voilà, un film qui est une comédie dramatique anglaise, sociale, où on a cette jeune ado qui défie tous les services sociaux, alors qu'elle est... elle est orpheline, hein, et qui va voir débarquer dans sa vie son père biologique. Voilà. Et pour la petite histoire aussi, c'est la directrice photo, c'est Molly Manning-Walker, qui est la réalisatrice de How to Have Sex, dont on a pas mal parlé aussi, et qui est très bien.
Excellent film, mais qui n'est plus à l'affiche. Par contre, Scrapper est à l'affiche à Aubenas encore, ou si vous êtes à Annonay mardi. Bien. Pour le film. Voilà, ben voilà, il a dit son dernier mot, oui. Olivier, qui voulait non, en replacer
c'est
une.
C'est vraiment très bien,
Scrapper, donc, le Festival du film d'Annonay, aussi samedi soir, juste à noter, au regain d'Uteil, il y a la trilogie Retour vers le futur qui sera reprojetée. Et on n'écoutera pas le petit son avec la voix française de Christopher Lloyd, interprétée par Pierre Athé, qui est mort il y a peu de temps, en 2020. Mais c'est une voix formidable. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain Cinémascope. Merci beaucoup, Sylvain, à la réalisation. Merci à vous toutes et tous autour de cette table pour nous avoir donné envie de regarder des films encore. Ciao.
Voilà.